Votre grand journal du soir sur Europe 1 jusqu'à 20h avec Mathieu Béliard.
Et avec mes invités pour parler de l'alcool. La France, on aurait pu dire les Français, mais on a choisi de poser cette question ainsi. La France a-t-elle un problème avec l'alcool? Vous allez intervenir au 39-21. Autour de la table ce soir, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche du Tarn, coprésidente du groupe d'études Vigne, Vin et œnologie, porte-parole du groupe La République En Marche à l'Assemblée. Bonsoir.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue. Professeur Amine Benyamina, psychiatre, spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse. Bonsoir.
Bonsoir.
Et Hugo Travers, comme tous les mardis, youtubeur, sa chaîne Hugo Décrypte sur YouTube, étudiant à Sciences Po. Bonsoir Hugo.
Bonsoir.
Soyez tous les trois les bienvenus en studio avec nous. Benjamin Muller.
Ça va, bonsoir Benjamin. Mathieu, bonsoir à tous.
Comme chaque jour avec vous Benjamin, on voit comment la télé et la radio couvrent un sujet de l'actualité. Aujourd'hui, la visite du président chinois qui se poursuit en France.
Et oui, sujet dont on a encore beaucoup parlé aujourd'hui, et notamment aux 13h de TF1 de Jean-Pierre Pernaut.
Dans l'actualité internationale maintenant, toujours la visite en France du président chinois.
Tout à fait Jean-Pierre, c'est ça. Alors un peu partout, cette visite a été l'occasion de débattre, notamment ici même avec vous Mathieu.
La Chine, je vous pose la question, partenaire ou rival, danger ou opportunité?
Voilà, vraie question, vrai débat sur ce sujet dont il est important de parler sérieusement, loin des caricatures, ce qu'ils ont essayé de faire à Sud Radio.
Alors on a parlé de la Chine tout à l'heure, moi je vais y revenir, à la Chine et particulièrement à la visite du dirigeant.
Reviens en Chine,
oh, non.
Oui, ah ouais, les gars, c'est fin, bravo à vous, bon débat. Sur LCI, David Pujadas animait un débat de fond hier soir, tout en regardant en direct les invités du dîner officiel qui montaient les marches de l'Elysée. Les invités s'intéressaient au sujet de fond et Pujadas, un peu moins.
Les terminaux rachetés par les Chinois et les terminaux qui sont toujours contrôlés par les Grecs.
Juste, on peut parler aussi d'Alstom.
Regardez Alain Delon qui est en train d'arriver à l'Elysée. Voilà.
Oui, merci David, arrêtez de parler d'Alstom, il y a de la resta. Allez, on continue à propos des droits de l'homme.
Est-ce qu'il sera question de droits de l'homme?
Alors ça, c'est une bonne question. Emmanuel Macron en a parlé lors de son entretien. Voilà Hélène Rollès. On parlait d'Hélène et les garçons.
Que dire sur les droits de l'homme alors qu'on peut parler de cette grande actrice, symbole de la culture à la française. D'ailleurs, il n'y a pas que Pujadas que ça a passionné Hélène et les garçons, mais aussi Vincent Moscato dans son émission Foot sur RMC.
Tu sais qui c'est qui t'a invité au repas avec le King Champing, le Chinois, le Chinois, Hélène et les garçons.
C'est incroyable, c'est une star là-bas.
Qui est comme une voiture volée,
Hélène et les garçons.
Oui, bon, merci. Merci aussi pour l'analyse, on s'éloigne de notre sujet sur la Chine, surtout qu'à propos des droits de l'homme, on retiendra ce coup de gueule de votre invité hier soir Mathieu, le sinologue Jean-Philippe Béja.
Aujourd'hui, il y a 1 million à 1,5 million de Ouïghours et de Khazars qui sont incarcérés dans des soi-disant centres de formation qui sont de véritables camps de concentration pour simplement avoir pratiqué leur culture. Et là, je n'entends que le silence de l'Europe. Alors, où sont nos valeurs dans ces conditions?
Voilà, vrai coup de gueule. Autre coup de gueule résumé à sa manière par Nicolas Canteloup ce matin, version Bruno Le Maire.
Un numéro qui est déjà bien rodé. C'est un numéro de danse du ventre, de léchage de boules et de fermage de gueule sur les droits de l'homme.
Voilà, deux manières de faire passer le même message au fond et le mot de la fin sur LCI pour l'économiste Pascal Perry. Une citation qui résonne avec l'actualité et pas forcément à propos de la Chine d'ailleurs.
Deng Xiaoping disait, quand il a pris le pouvoir, il disait, il est honorable de s'enrichir mais on ne peut pas tous le faire en même temps. Je pense qu'il faut bien réfléchir ce truc-là.
Ah, ça mériterait un bon débat là aussi, Mathieu.
Non, il n'y a pas de débat. D'abord moi, puis après vous, Benjamin. On va faire comme ça. Merci Benjamin Muller et à demain. Il est 19h28.
Europe 1.
Vous êtes sur Europe 1. La France a-t-elle un problème avec l'alcool? Mes invités autour de la table, il ne manque plus que vous au 39-21. On revient dans quelques secondes. À tout de suite.
Vos invités Mathieu Béliard sur Europe 1, Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche du Tarn, coprésidente du groupe d'études Vigne, Vin et œnologie, professeur Amine Benyamina, psychiatre, spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse et Hugo Travers, youtubeur que vous suivez sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte.
Alors d'abord, et avant d'entrer notre débat sur le problème des Français et de la France avec l'alcool, c'est une question que nous posons, mais on parlait de Xi Jinping et de la visite du président chinois à Paris. Je profite de votre présence, Marie-Christine Verdier-Jouclas, pour savoir quel regard vous portez. Le politique, il faut bien être clair là-dessus, le politique dans l'immédiat ne peut rien là-dessus, donc c'est pas un reproche, mais quel regard vous portez sur ces domaines bordelais qui sont baptisés Château Lapin Impérial ou Antilope Tibétaine, on en avait parlé ici même.
Mais ça pose bien le problème justement de la transmission de l'exploitation agricole. Parce que si des Chinois viennent racheter nos vignobles, c'est qu'aujourd'hui en France, on a vraiment un souci avec ça. Et c'est pour ça qu'il y a une mission qui a été faite au niveau des députés, qu'il y a un rapport qui a été remis. Et le président de la République a annoncé lors de l'ouverture, l'inauguration du Salon international de l'agriculture, que justement il y aurait une loi par rapport aux fonciers pour la transmission. Parce que ces domaines qui sont très riches ont une valeur inestimable et de ce fait, il y a le problème de la transmission, que ce soit en session familiale ou que ce soit hors familial. Donc après, personnellement, là je vais donner un avis tout à fait personnel, je ne peux que regretter qu'effectivement des domaines bordelais partent comme ça à l'extérieur, à l'international.
Et leur nouveau nom aussi, c'était un sujet de débat à une autre occasion. Ce n'est pas le sujet ce soir, mais je voulais vous poser la question, puisque vous êtes coprésidente du groupe d'études vigne, vin et œnologie. Je commence avec vous. Je posais la question, la France a-t-elle un problème avec l'alcool? J'en profite, est-ce que le vin est un alcool comme les autres?
Mais bien sûr que le vin est un alcool comme les autres.
Il n'y a pas de débat là-dessus.
Après, le vin, c'est autre chose. C'est ce qu'on essaye de dire. C'est d'abord des hommes, c'est des familles, c'est une terre, c'est une culture, c'est un patrimoine. Il y a tout ça derrière. Et au niveau d'une balance commerciale, en exportation, c'est 8,9 milliards. Donc ça compte quand même aussi au niveau économie en France. Mais si on se base après par rapport à l'alcool, bien sûr que le vin est un alcool comme les autres. Et c'est pour ça que la prévention doit se faire à tous les niveaux, y compris avec le vin. On n'est pas du tout en contradiction avec cela.
Amine Benyamina, cette étude de Santé publique France nous a inspiré le sujet ce soir. Nouvelle campagne lancée avec une nouvelle formule qui sera répétée, une campagne aussi de prévention. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Si on regarde bien, près d'un quart des Français de 18 à 75 ans ne respectent pas ces critères-là. Est-ce qu'on peut dire pour autant que plus d'un quart des adultes ont un problème avec l'alcool en France ?
Le terme problème, le mot problème pose problème. Ce qui est important à savoir, c'est que c'est une émission, on le sait, et c'est une campagne qui ne parle pas du vin, parle de l'alcool en général. Vous avez bien vu, puisque vous avez évidemment préparé le dossier, qu'on a des difficultés avec les jeunes qui consomment beaucoup, les hommes d'un certain âge qui consomment tous les jours, et puis on a un problème de banalisation de la consommation. Notre but, ce n'est pas de manger de la viticulture. C'est important de le dire, ça, parce que je sais que notre réputation nous précède lorsqu'on est dans les médias. C'est important. L'hygiéniste que je suis, entre guillemets, n'est pas ce qu'on pense de lui.
Il y a de la place. Vous ne prenez pas une abstinence totale et un refus total de l'alcool.
Ça n'est pas du tout mon rôle et je ne vais pas m'initier dans la liberté des Français, notamment lorsqu'il s'agit d'un produit qui s'insinue dans notre culture, dans notre mémoire et dans notre tradition. Je l'ai bien compris, je suis aussi français que madame, et donc je sais de quoi je parle. En revanche, il y a de la place pour sauver des familles, sauver la viticulture, et une capacité d'informer les Français sur les risques. Et jusqu'à présent, et je vais le dire, peut-être on va se fâcher là-dessus, il arrive que le son, c'est-à-dire la voix de la science, l'épidémiologie n'arrive pas aux Français. Quand on compare deux campagnes importantes, et comparer n'est pas raison, sur la nocivité du tabac et les problèmes, je ne dis pas la nocivité, les problèmes que peut engendrer les excès de l'alcool, on est sur deux choses totalement antinomiques.
Vous ne dites pas la nocivité, mais on est sur 41 000 décès attribuables à l'alcool. Et contrairement à ce qu'on peut peut-être penser un peu simplement, on ne parle pas d'accident de voiture uniquement.
Non.
On parle de cancer, de maladies cardiovasculaires, on a un souci...
Absolument, pour que les Français se prémunissent, ils doivent avoir un minimum d'informations. C'est ce minimum d'informations sur les risques liés à cette consommation normalisée qu'il faut apprendre à donner la réalité aux Français. Ensuite, leur liberté de consommer, elle est totale. La prohibition, ça n'est pas du tout notre créneau.
Hugo Travers.
Je vais parler avec mon ressenti personnel qui est encore étudiant et qui sort de temps en temps.
Alors je suis obligé de le dire, Hugo, parce que toute la journée, on m'a dit, mais génial ce débat ce soir, il y a Hugo Travers qui est étudiant, et donc il va parler de binge drinking. C'est un cliché, c'est un stéréotype.
Justement, là-dessus, j'ai l'impression qu'il y a une distinction à faire entre les campagnes qui sont faites sur les dangers immédiats, c'est-à-dire on boit trop d'alcool et oui, on va pas prendre le volant après. Sur ce volet-là, j'ai l'impression que les campagnes sont assez efficaces. Alors, j'ai pas de chiffres, mais je vois moi le ressenti personnel, c'est-à-dire que il y a eu la campagne de Sam, celui qui conduit, c'est celui qui ne boit pas, que tous les jeunes, j'ai l'impression, connaissent, c'est quelque chose qui est très connu. Mais sur la question de l'alcoolisme, au final, de boire tous les jours ou de boire régulièrement, là j'ai l'impression qu'il y a un problème qui est très présent. Et moi je le vois sur les réseaux sociaux, c'est tout bête, mais je suis évidemment mes amis sur les réseaux sociaux et quand on voit que régulièrement, quasiment tous les jours, il y a un verre, une bière ou un verre de vin ou quelque chose qui est posté en ligne, il y a une sorte de banalisation d'une consommation quasi quotidienne, en tout cas quotidienne chez pas mal de jeunes, que je trouve assez inquiétante. Et là-dessus, je pense qu'il manque effectivement une campagne de sensibilisation. Les dangers de l'alcool, c'est pas seulement prendre la route après avoir bu, c'est aussi au quotidien, pas boire forcément tous les jours comme ça.
Amine Benyamina.
C'est l'esprit de la campagne, c'est-à-dire dire que consommer de l'alcool, c'est pas un acte banal. Et consommer de l'alcool, y compris du vin pour le coup, ce n'est pas un acte banal. Mmh. Combien même c'est quelque chose qui rentre dans notre culture, ce n'est pas un acte banal. On a des gens qui ont un alcool qui est très investi dans leur culture, par exemple les Écossais, ont une consommation de whisky qui est quasi traditionnelle, qui est conviviale et qui a les mêmes relents filiatoires que peut avoir le vin chez nous, mm-hmm. la bière dans les pays du Nord. Mm-hmm. Ils ont le même problème, ils ont réussi quand même à avoir un recul. Et moi, ce que je demande, c'est que, évidemment, il faut préserver la filière, il ne faut pas aller dans l'excès. Moi, je ne suis pas un excessif et des mes semblables soignants non plus. Mais il y a un espace de discussion que la filière viticole n'a pas souhaité emprunter il y a une année. Et je vous le dis honnêtement, j'ai été agréablement chopé par vos propos d'entrée. Et je vous remercie
mais
là-dessus.
Parce que les choses,
alors simplement, je marque une petite pause et vous allez pouvoir répondre, Marie-Christine Verdier-Jouclas. Il est 19h37. Précisément sur le rôle du politique, finalement, dans ces politiques de prévention. Vous parliez de l'Écosse qui a taxé les unités d'alcool alors que le whisky est ancré dans la culture écossaise. Est-ce qu'on ne pourrait pas imaginer des choses plus coercitives, des choses plus puissantes qu'une campagne de com' en France? On en parle dans un instant, 19h37.
Jusqu'à 20h sur Europe 1, Mathieu Béliard, vous êtes accompagné du youtubeur Hugo Travers, que vous suivez sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte. Le professeur Amine Benyamina, également à vos côtés, psychiatre, spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse, et Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche du Tarn, coprésidente du groupe d'études Vigne, Vin et œnologie.
La France a-t-elle un problème avec l'alcool? C'est la question que nous posons. Et je reprends ce que disait le professeur Amine Benyamina. Quel espace va-t-on trouver entre la question culturelle du vin, mais pas seulement du vin d'ailleurs, et la question de santé publique? Ce soir, avec cette question, Marie-Christine Verdier-Jouclas, est-ce qu'on est en train d'emmerder les Français?
C'est-à-dire emmerder les Français?
C'est Emmanuel Macron qui disait au sujet de la loi Evin, il ne veut pas qu'on emmerde les Français.
D'accord, ok, je reconnecte. Non mais, vraiment, les choses ont changé. Et moi, quand je vais voir mes viticulteurs en circonscription, ce sont les premiers à dire qu'il faut faire de la prévention. Soigner pour guérir, c'est super. Mais si on peut éviter d'être malade, c'est encore mieux. Et la prévention, le président de la République l'a dit en premier pendant toute sa campagne, et pour tout d'ailleurs, pour tous les sujets, qu'il valait mieux prévenir qu'ensuite trouver des solutions quand c'était trop tard. Et c'est pareil par rapport à l'alcool. Et c'est pour ça que moi, quand je vais voir mes viticulteurs, ils sont tous d'accord, il y en a déjà qui ont dans leurs caveaux des affiches par rapport aux femmes enceintes affichées de façon claire, qui forment leurs employés ceux qui sont dans les caveaux pour vendre le vin, etc., par rapport aux jeunes, etc. Donc la prévention, c'est quelque chose d'important et les filières sont prêtes à travailler. D'ailleurs, elles ne nous attendent pas, elles ont commencé, elles ont pris 6 engagements clairs de publicité qu'elles relaient sur les réseaux sociaux, pour l'instant que sur les réseaux sociaux. Parce qu'effectivement, il faut voir après comment on peut les accompagner pour que ce soit diffusé de façon plus large. Donc la prévention, c'est important et c'est en ça qu'on ne doit pas s'opposer et qu'on doit travailler ensemble. Aujourd'hui, pour la première fois, vous avez le ministre de l'Agriculture qui travaille avec le ministre de la Santé justement par rapport à cette prévention. Et je ne parlerai que du pictogramme, puisque c'est quand même quelque chose d'actualité. Le pictogramme donc sur les bouteilles, oui, sur lesquelles on est en train de
on
regarder...
On attendait peut-être... une taxation des valeurs d'unité d'alcool, on se retrouve avec un pictogramme.
Ah non, mais attendez. Alors après, je vais vous dire mon sentiment et notre sentiment quand même. Le pictogramme, c'est super parce qu'effectivement, ça peut être le dernier, à la limite, recours pour la personne qui n'aurait jamais été informée en avant par les gynécologues, par les hôpitaux, par les médecins. On peut supposer qu'on peut arriver là. Mais c'est plutôt en amont qu'il faut travailler parce que le pictogramme, c'est un peu la dernière roue de secours. La taxation, attendons d'abord que nos lois fassent effet et que chacun puisse vivre dignement de son travail. Il y a aussi quand même un problème là économique.
Hugo Travers ?
Non, mais c'est simplement un ressenti personnel sur les campagnes. Encore une fois, qu'on a des campagnes sur le fait de ne pas boire quand on est enceinte. Moi, j'ai l'impression que là aussi, c'est quelque chose que les gens savent. La question, c'est vraiment... Alors, peut-être pas tous, et je ne ferai pas de généralité. Mais
j'ai l'impression que c'est relativement... Ça me tuera pas,
c'est vrai.
J'ai grandi comme ça,
Mais ce qui manque encore plus, encore une fois, c'est sur la consommation quotidienne, notamment chez les jeunes. Et moi, je vois qu'il y a des campagnes très importantes, par exemple, sur la cigarette, parce qu'effectivement, fumer, ça... ça tue. Et il y a des campagnes très importantes. Il y a des taxes en plus, est-ce qu'il faut taxer, je sais pas, mais il y a des éléments très importants. Sur l'alcool, je n'ai jamais honnêtement dans ma scolarité, dans le cadre de cours, eu une sensibilisation sur cet aspect de boire tous les jours, etc. Sur les risques, on les a eu de ne pas boire en conduisant, mais sur cet aspect très précis, non.
Mais
alors c'est un élément qui est assez important.
Mais ça arrive.
Amine Benyamin,
ça arrive quand même. Il y a la publicité qui va arriver.
Vous parlez de prévention, madame la députée, c'est important. Alors, vous savez que nous, on a été un peu chagrinés du fait que la prévention est un métier et que ce métier... moi, je ne suis pas préventologue, bien que je sois médecin. C'est un vrai travail. Et donc, lorsqu'on a associé la filière dans la prévention, on a dit, soit, il n'y a pas de problème. Si vous estimez que faire de la prévention, c'est faire de l'éducation au goût dans les manuels scolaires, pour moi, ce n'est pas de la prévention.
C'est ce que fait. Je ne parle pas de vous. Je parle
d'une certaine société, association, qui est très présente, qui a pignon sur rue et qui
vous
fait de
vraie société.
Oui,
vraie société qui est le lobby viticole, il faut le dire, et dont l'ancienne patronne se retrouve aujourd'hui conseillère chargée de l'agriculture.
C'est pas ce que vous dites.
Hein.
Ce n'est pas ce que vous dites. Je finis simplement mon argumentaire. C'est pas ce que vous dites. Si on dit éduquer au goût, en vérité, c'est initier au goût. Pour moi, je dis non, parce que toutes les études, toutes les recherches montrent que plus tard on boit et mieux c'est, pour des raisons de sensibilisation, pour des raisons d'appétence et de sensibilité. Et prévenir en faisant de l'éducation, c'est une manière aussi, de le dire, d'initier. Je ne suis pas d'accord là-dessus. C'est ce genre de fauné que nous dénonçons. Si on est sincère et si on veut faire de la prévention, allons ensemble, imposons-nous des règles et ne soyons pas dupes les uns et les autres. C'est ce genre de fausse prévention que nous dénonçons.
Enfin, par rapport à Vins et Sociétés, puisque vous en parlez, les 6 axes de prévention qu'ils présentent sont clairs, précis et ne parlent pas du tout d'éducation. Après, Vins et Sociétés, ils représentent les filières, hein, c'est-à-dire que les vignerons indépendants, les cas coopératives, bon voilà, ils ont choisi.
Ils ont le droit,
les
et évidemment, tout le monde s'organise, mais bon,
donc,
quand leur patronne se retrouve à l'Élysée.
Il faut qu'on puisse travailler avec eux parce qu'ils représentent les filières, mais c'est aussi, on travaille beaucoup en local avec nos vignerons, direct, parce que c'est, je me méfie toujours quand on parle de lobby. Après, par contre, jusqu'à présent, on avait quoi? L'abus de l'alcool est dangereux. La nouvelle campagne qui va sortir, elle est précise. Elle donne une consommation, pour répondre à votre interrogation. Enfin, je dirais, on a une consommation maximale en dessous de laquelle on ne doit pas aller. Ça se fait dans d'autres pays et ça a fonctionné. Et on a bien vu que le taux d'alcoolique, justement, est bien redescendu. Je pense par exemple au Canada, même s'ils sont partis de très loin, on est d'accord. Donc, enfin un message, pour répondre à Hugo, on a enfin un message clair en disant, attention, au-delà de 2 verres par jour,
un problème. On va poser la question beaucoup plus clairement, oui. Est-ce que c'est normal que des kits pédagogiques soient distribués dans des classes à travers la volonté
cas, hein.
de Vins et Sociétés? Est-ce que c'est
cas.
Acceptable quand on voit les 41 000 décès par an?
Alors, moi, j'ai eu 3 enfants. Mes enfants n'ont jamais eu de kit pédagogique dans leur cartable. Donc, je suis désolée, je ne peux pas répondre à cette question. Je ne sais pas du tout si c'est réel ou pas. Après, moi, j'ai eu 3 enfants.
Ah
et
non,
par rapport à l'éducation, par rapport à l'éducation, je crois qu'à un moment donné, on peut aussi éduquer nos enfants à déguster du vin. Moi, j'ai appris à mes enfants, mais en temps et heure, à déguster du vin.
Écoutez, je vais faire l'effort de vous comprendre parce que vous venez dans une région
famille,
où il y a une vraie culture là-dessus.
Chez moi.
Mais moi, je ne trouve pas obligatoire d'apprendre à déguster du vin.
Non,
je pense que ça, on le croise, on le rencontre et peut-être on corrige ou peut-être on donne à des éléments. Mais initier, déguster, éduquer, c'est le faux, c'est le verre à moitié plein.
Je coupe parce que simplement j'ai une publicité à passer. non, mais je vous le dis. Je voudrais aussi qu'on prenne le témoignage d'Hélène qui nous a appelé au 3921, mais simplement sur ces kits pédagogiques, c'était pas au conditionnel.
Je
compris en maternelle, dans des régions viticoles, on distribue des kits, des jeux de société, des exercices de maths avec des étiquettes de Bordeaux. Enfin, ça, c'est quand même questionnable. 19h47, on marque une pause. Vous restez bien avec nous. Non, je voudrais absolument ne pas perdre plus de temps. Je vois Jean qui réalise cette émission. On est un peu en retard et on va écouter Hélène. Hélène qui nous a appelé spontanément au 3921 dans quelques secondes. Restez bien sur Europe 1.
Votre grand journal du soir sur Europe 1 avec Mathieu Béliard et vos invités Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée La République En Marche du Tarn, coprésidente du groupe d'études Vigne, Vin et œnologie, le youtubeur Hugo Travers que vous suivez sur sa chaîne YouTube Hugo Décrypte, et le professeur Amine Benyamina, psychiatre, spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse, 3921 pour intervenir.
Hélène est avec nous en ligne à Chalon-sur-Saône. Bonsoir Hélène.
Bonsoir.
Soyez la bienvenue sur Europe 1. Je vois sur ma fiche que vous avez appelé le standard en disant que vous avez eu des problèmes avec l'alcool et que c'est terminé pour vous depuis 12 ans, Hélène.
Oui, déjà, oui, oui, 12 ans.
Ça s'est manifesté comment chez vous, Hélène? Déjà.
Alors, je pense que l'intervention du médecin est juste. La culture en France du vin fait que quand on fait sa communion, par exemple, c'est la première fois où on a le droit à 12 ans de boire de l'alcool. Alors ça commence comme ça, on suit le mouvement, on fait comme les autres. Et puis parfois dans la vie, on fait face à des difficultés tout à fait autres. Et l'alcool vous sert de support, de béquille. C'est un leurre, bien sûr, mais on boit un peu et on finit par boire beaucoup. Pour les femmes, je crois que ce sont des problèmes psychologiques qui déclenchent l'addiction. En fait, mon témoignage, c'était de dire quand vous avez déjà pris conscience que vous les aviez plongés. En France, aujourd'hui, je crois qu'il est très difficile de trouver de l'aide. Quand vous avez la chance de trouver un médecin spécialisé, vous pouvez peut-être vous en sortir, mais sinon, c'est quand même très très difficile. Aller à l'hôpital quand vous avez honte de vous-même pour aller exposer... Oui, on est coupable, on est honteux, on n'a pas de volonté. En fait, on ne sait pas que c'est une maladie. C'est pour ça que les campagnes de prévention, qui ne sont pas, comme le disait Hugo, sur des instants de vie, mais sur la longueur... ça manque. Je trouve que ça manque en France.
Alors Hélène, c'est vrai que depuis le début de ce débat, nous questionnons le politique. Amine Benyamina, il y a aussi les professionnels de santé qui doivent entendre que quand on a besoin d'appeler à l'aide, c'est pas évident.
C'est pas évident parce que l'organisation des soins en addictologie, c'est une discipline récente. On n'a pas les moyens qu'ont les grandes disciplines installées. On a demandé à être un peu plus organisé. On essaye de faire de telle sorte que les souffrances et les appels soient entendus. On s'organise comme on peut. Il y a des associations qui sont là pour aider. Il y a des associations de patients, d'anciens usagers. On a de plus en plus la capacité à dire qu'on est là pour aider les personnes. Et puisqu'elle a fait remarquer à juste titre, notamment pour les femmes, il y a une vraie culpabilité à aller demander de l'aide. Parce que c'est une honte à doubler d'une honte lorsqu'on est consommatrice d'alcool, surtout quand on a des problèmes liés à l'alcool. Et ça, c'est une réalité. Je voudrais que quand même, avant que l'émission ne se termine, qu'on ne centre pas sur le vin. Ce n'est pas juste et je ne souhaite pas qu'on sorte de cette émission là-dessus. Et c'est vrai que ce sont les associations, les représentants de la vigne qui viennent débattre. Les grands groupes qui inondent avec des bières à 8-6 et de l'alcool qui ne coûte pas cher ont une part de responsabilité. Et ils sont cachés derrière. Notamment. C'est très important. Mais c'est vrai que ce sont les associations avec lesquelles on débat. Parce que y a la culture et la dénormalisation viendront de là. Mais il ne faut pas oublier, tous les alcools sont intéressés, y compris le cidre.
Hugo Travers.
Il y a aussi une question.
C'est bien de le rappeler, c'est important parce que c'est vrai qu'en France, on a tout de suite le réflexe vin.
Il ne faut pas stigmatiser.
Bière un peu, en tout cas, une unité d'alcool, c'est une unité d'alcool. Hugo Travers.
Il y a aussi une question de la responsabilité de chacun, et j'en parlais en début de cette émission, sur l'impact des réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il y a une campagne assez intéressante, dont malheureusement j'ai oublié l'auteur, mais qui en fait était un compte Instagram d'une influenceuse, donc quelqu'un de connu sur les réseaux sociaux, et qui postait des photos d'elle régulièrement.
C'est nous qui l'avons fait.
Bravo pour cette campagne.
Avec BETC. L'agence.
Exactement, donc c'est une très bonne campagne qui montrait en fait des
pendant 6 mois
photos
nous l'avons
entendue, voilà.
Une femme tout à fait banale et qui à la fin avait un problème d'alcool. Voilà. Elle était badée comme on dit pendant tout l'été, c'est nous qui l'avons
et
fait.
Et c'est le type de campagne qui était, enfin moi que
sur
j'ai
Instagram,
vu et que beaucoup de jeunes
avec
ont vu parce que
photos.
Beaucoup de gens suivaient cette femme et du jour au lendemain elle disparaît, on se demande pourquoi et en revoyant les photos, on voit que sur chacune des photos publiées par
verre.
Cette femme, elle avait un verre. Et c'est ce type de banalisation qui est assez inquiétant et voilà, c'est juste pour saluer cette campagne, je ne savais pas que c'était vous. Mais
c'est nous qui l'avons fait, ça dictait avec BETC. La boîte,
Marie-Christine. Marie-Christine Verdier-Joucla, simplement, puisqu'on arrive au bout de l'émission, et au passage, je remercie Hélène qui a bien voulu témoigner ce soir. Est-ce qu'on peut imaginer, on a parlé de la taxation, est-ce qu'on peut imaginer au moins durcir les règles peut-être de marketing, de communication de ces géants de l'alcool dont on parlait?
Mais ça dépend ce qu'on entend par durcir les règles. Nous, ce qu'on souhaite, et ce que les filières souhaitent, c'est qu'il y ait de la co-construction. Voilà. Donc tout peut être envisagé à partir du moment où on se met tous autour d'une table et qu'on essaye de discuter et qu'on essaye effectivement d'avancer, parce que quand on entend, je suis désolée Hélène, et la détresse qu'elle a pu avoir pendant toutes ces années, moi personnellement j'ai connu aussi des personnes qui effectivement étaient alcooliques, en fait je veux dire, personne ne peut se satisfaire de cette situation, et quand on voit aussi les jeunes, donc il y a un vrai sujet
travailler ensemble.
Qu'il faut traiter. Nous, on est pour travailler ensemble.
Je voudrais juste rappeler les nouveaux repères donnés par Santé publique France. Maximum 10 verres par semaine, maximum 2 verres par jour, des jours dans la semaine sans consommation. Pour votre santé, l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Et je vous invite à taper alcomètre.fr. C'est ce que Santé publique France a mis en ligne. Un peu surprenant, sincèrement. Vous remontez sur les derniers jours et votre consommation et vous verrez les résultats. Faites le test, faites le test. Merci beaucoup à vous trois. Marie-Christine Verdier-Jouclas, députée de La République En Marche du Tarn et coprésidente du groupe d'études Vigne, Vin et œnologie, porte-parole du groupe LAREM à l'Assemblée. Merci beaucoup. Professeur Amine Benyamina, psychiatre, spécialiste des addictions à l'hôpital Paul Brousse. Vous avez vu, votre campagne a bien marché.
Louise Delage, pour ceux qui veulent aller.
Louise Delage.
Louise Delage sur YouTube, puisque c'est le cas. Et puis vous allez voir la campagne.
Sur Instagram.
Et Hugo Travers, YouTuber, sa chaîne Hugo Décrypte sur YouTube, étudiant à Sciences Po. Merci Hugo.
Merci beaucoup.
Et à mardi prochain, 19h56. Émilie Mazoyer, bonsoir.
Salut Mathieu Béliard.
Comment ça va Émilie?
Oh mais tellement bien ce soir.
Qu'est-ce qu'on écoute?
On écoute, et c'est du caviar mes enfants, il n'y a pas de limite, hein. On peut l'écouter toute la journée, 2 fois par jour, 10 fois par jour. Un immense soulman américain qui s'appelle Lee Fields. Et non seulement il sera avec nous en interview pour nous parler de son nouvel album It Rains Love qui va arriver le 5 avril, mais en plus, il sera en direct, live, dans Musique.
Validé par le professeur Amine Benyamina.
Ah, super.
Émilie Mazoyer, belle soirée. En
merci.
Musique jusqu'à 22h sur Europe 1. À demain, Ambline.
À demain, Mathieu Béliard, à 17h. Dans un instant, l'information avec Isabelle Millet sur Europe 1.
Europe 1.